Les marchandes de sable captent l'Atlantide, histoire de la mer de Isabelle Lafontaine. Comment les Guyanais ont appris à ramer? Jadis, les marins de Guyane étaient forcés de suivre les mouvements des marées et des courants marins lorsqu'ils naviguaient, car ils étaient, en ce temps-là, incapables de faire avancer seuls leurs embarcations dans la direction souhaitée. Au lieu de brasser l'eau avec le plat de leur rame afin de propulser leur canot vers l'avant, ils se contentaient en effet de plonger leur rame dans la mer en les présentant sur la tranche, ce qui ne servait quasiment à rien. En raison de l'étrange manière dont ils manœuvraient leurs embarcations, ils n'oubliaient jamais d'emporter une immense perche à bord. Chaque fois qu'ils se heurtaient à un courant contraire, ils étaient en effet obligés de se laisser dériver vers les côtes, afin de pouvoir planter solidement leur perche dans les fonds sablonneux. Ils parvenaient ainsi à immobiliser leur bateau jusqu'à ce que le courant change et leur soit à nouveau favorable. Un jour, la tribu des Arawaks, qui comportait d'excellents marins passés maîtres dans l'art de ramer, décida d'envoyer un équipage chercher de l'autre côté de l'océan les pierres nécessaires à la confection de leur hache rituelle. En arrivant au large de la Guyane, quelle ne fut pas la surprise de leur capitaine en voyant les marins de cette contrée tenter tant bien que mal de gouverner leurs embarcations en ramant en débit du bon sens. Ému par leur tentative maladroite, ce dernier se changea aussitôt en ostinops, un oiseau marin au chant lancinant, et se mit à survoler la mer en criant d'une voix stridente « À plat ! À plat !» Surpris par le chant curieux du volatile qui tournoyait obstinément au-dessus de leur tête, les marins guyanais se demandèrent avec perplexité ce qu'ils pouvaient bien vouloir dire. « Pourquoi cet oiseau stupide crie-t-il à plat en regardant nos rames ? » s'écrièrent-ils. « Imaginez un peu ce qui se passerait si on suivait sa suggestion. » Il doit être très dangereux de tenir les rames de cette façon, car si d'aventure on frappe quelqu'un avec le plat de sa rame, on est sûr de l'assommer. Mais pendant qu'il devisait ainsi, l'oiseau continua alors seriner sans relâche d'un air mécontent. « À plat ! À plat !» Intrigué par les paroles de ce chant mystérieux, les marins finirent par obéir à l'oiseau et modifièrent leur façon de ramer. Pour la première fois, ils plongèrent leur rame à plat dans la mer et constatèrent avec stupéfaction que leur embarcation se déplaçait trois fois plus vite qu'avant. De retour à terre, ils s'empressèrent d'enseigner cette nouvelle manière de tenir les rames à tous leurs camarades, et à dater de ce jour, tous les marins de la contrée purent naviguer où bon leur semblait, sans dépendre des marées ou des courants. Quant à l'ostinops, il continue depuis cette aventure à chanter le même conseil, afin que nul sur terre ne puisse oublier la bonne manière de pagayer. Gruffydd ab Einion et les îles magiques. Jadis, les fées du Pembrokeshire venaient faire leurs achats sur le marché du port de Mitford. Pendant longtemps, les habitants du quartier se demandèrent avec perplexité d'où elles pouvaient bien venir, car elles faisaient toujours leurs courses sans dire un mot, payaient leurs notes sans qu'on ait besoin de leur en indiquer le montant, et disparaissaient ensuite sans laisser de traces. Or, les fées achetaient toujours leur viande chez le même boucher et prenaient leur maïs chez un marchand nommé Gruffydd ab Einion. Invisibles pour la plupart des gens, elles étaient toutefois démasquées par certaines personnes à la vue particulièrement perçante. Cependant, nul n'était jamais parvenu à découvrir comment elle arrivait là et quelle direction elle prenait pour rentrer chez elle. Les habitants du quartier de Mitford étaient donc dévorés de curiosité à leur sujet. Un jour, en sortant de l'église de Saint-David, Gruffydd Bennion jeta par hasard un coup d'œil vers la mer et aperçut au large un chapelet d'îles qui ne se trouvait pas là un instant auparavant. Intrigué, il se dirigea vers la plage pour mieux observer le mystérieux royaume des fées. Mais en arrivant sur la grève, il constata à sa grande surprise que les îles avaient disparu. Perplexe, il retourna sur ses pas, marcha jusqu'au porche de l'église d'où il avait vu son étrange vision et regarda attentivement l'océan. Les îles se détachaient à nouveau sur l'horizon, leurs champs verdoyants parsemés çà et là de petites maisons aux toits brillants. Gruffydd était un homme déterminé. Une fois sûr de son fait, il découpa le sol autour de ses pieds, certain qu'à cet endroit, il avait la propriété de rendre visibles les îles magiques aux yeux des humains. Il déposa ensuite cette motte de terre dans une barque et fit voile vers le rivage des îles enchantées. À son arrivée, les fées lui firent les honneurs de leur royaume avant de le renvoyer chez lui, chargé de cadeaux. À l'heure du départ, elles prirent cependant soin de lui demander de leur donner la motte de terre, grâce à laquelle il avait découvert leur domaine. En échange, elles lui révélèrent l'entrée d'un passage souterrain qu'il pourrait emprunter chaque fois qu'il aurait envie de leur rendre visite. Grâce à l'or que les fées des îles vertes lui avaient offert, Gruffydd Bennion devint l'homme le plus riche du pays de Galles. Toute sa vie, il demeura leur ami et vint souvent les voir en empruntant discrètement le passage secret reliant le continent aux îles magiques. Devinette des îles Fidji. Tranquille, je porte un long habit noir, mais quand on vient me déranger, je quitte mon vêtement. Qui suis-je ? La réponse est le coris. Au repos, ce coquillage s'étend en effet hors de sa coquille et la dissimule en partie en formant une sorte de manteau. Craintif, il se cache à l'intérieur au moindre bruit. L'origine des reflets marins. À l'aube des temps, aucun homme n'habitait encore sur les îles Tonga, lesquelles étaient alors le domaine des dieux Sisi et Faenga. Ces derniers vivaient en compagnie de leur fidèle serviteur Passicolé, qui était originaire des îles Samoa. Un jour, Sisi et Faenga inventèrent un nouveau moyen de locomotion. Après avoir dressé leurs deux grandes corbeilles, ils demandèrent à Passicolé de les suspendre à une longue tige. Puis, ils sautèrent à l'intérieur, ordonnèrent à leurs serviteurs de les soulever en posant la canne sur son épaule et lui intimèrent de les transporter ainsi où bon leur semblait. Au début, Passicolé leur obéit volontiers. Mais plus le temps passait, plus les paniers lui semblaient lourds et plus il avait de peine à les porter. Épuisé, il finit par suspendre les deux corbeilles aux branches d'un arbre et partit se reposer. Confortablement installés dans leur panier, Sisi et Faenga ne se rendirent tout d'abord compte de rien. Chaque fois qu'ils levaient la tête, ils voyaient en effet défiler les nuages, chassés par le vent, et avaient l'impression que Passicolé continuait à avancer, en les portant sur son épaule. Ravi, il se balançait gaiement en l'encourageant et en le félicitant de son zèle. Après un long moment, irrité de voir qu'il n'était toujours pas arrivé à destination, les dieux commencèrent toutefois à invectiver leur serviteur et lui ordonnèrent de presser le pas. Mais ils étaient restés si longtemps suspendus aux branches de l'arbre que le fond de leur panier finit par lâcher. Sisi et Faenga roulèrent sur le sol et comprirent aussitôt que leur serviteur s'était moqué d'eux. Furieux, ils partirent à sa recherche et lui reprochèrent le mauvais tour qu'il leur avait joué. Quelque temps plus tard, ils décidèrent de voguer jusqu'aux îles Samoa et chargèrent Passicolé de faire avancer leur canot à grands coups de rame. Ce dernier accepta. Mais avant de partir, il prit soin de dissimuler un rouleau de corde au fond de l'embarcation. Une fois arrivé en pleine mer, Passicolé prit discrètement les cordages et pointa en doigt vers l'océan en criant qu'il venait de voir un banc de poissons. Avant que ses maîtres aient eu le temps de le retenir, il plongea dans la mer la tête la première et disparut dans les flots. N'ayant pas remarqué qu'il avait emmené de la corde avec lui, Sisi et Faengaa se dirent qu'il était parti pêcher et se penchèrent par-dessus bord pour guetter son retour. Pendant ce temps, Passicolé nagea sous le canot et enroula soigneusement la corde autour de sa taille. Puis, il attendit que les dieux soient convaincus qu'il s'était noyé pour ressortir à l'endroit même où il avait disparu. Voyant qu'il était couvert de cordages mouillés, ses maîtres lui demandèrent avec curiosité où il était allé. Passicolé leur répondit alors d'un air rusé. « J'ai plongé jusqu'au fond de la mer. Là-bas, j'ai rencontré des sirènes et des tritons qui m'ont invité à partager leur festin. J'aurais bien accepté, mais je me suis dit que vous aimeriez peut-être m'accompagner. » Naturellement, Sisi et Faengaa moururent aussitôt d'envie de rencontrer le peuple des profondeurs. Passicolé leur expliqua alors qu'avant de plonger, ils devaient absolument parer leurs bras et leurs jambes de cordage pour faire honneur à ceux qui les invitaient. Sur ces mots, il ligota ses deux maîtres de manière à les empêcher de nager. Tous trois sautèrent ensuite dans la mer. Libre de ses mouvements, Passicolé fut naturellement le seul à ne pas couler et à remonter sur le canot. Incapables de bouger les bras et les jambes, Sisi et Faengaa se débattirent en vain parmi les vagues, en le regardant s'éloigner vers la côte. Depuis ce jour, les pêcheurs des îles Tonga racontent que les reflets qu'on aperçoit parfois au fond de l'eau ne sont autres que les silhouettes de Sisi et Faengaa, se tortillant sans cesse pour se débarrasser de leurs liens, afin de pouvoir remonter librement à la surface. Et lorsque les enfants des îles font des bêtises, leurs parents les menacent souvent d'appeler à la rescousse les deux prisonniers des profondeurs.